La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font. Avec les conseillers Laurence Pecot-Rivolier et François Pillon.
Aujourd'hui, nous allons évoquer les primes d'objectifs versées aux salariés dans le cadre du décryptage de notre arrêt. Et avant, en actualité des décisions de la Chambre sociale, nous allons évoquer les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les élections professionnelles. Bonjour Laurence. Alors, la première décision du 15 décembre dernier concerne le délai dont dispose le salarié pour agir en justice afin d'obtenir la requalification de son contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée. Mais peut-être convient-il de rappeler ce qu'est un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Alors en fait, un contrat d'accompagnement dans l'emploi, c'est une variété de contrats aidés. Ces contrats qui visent à faciliter l'accès durable à l'emploi des personnes qui rencontrent des difficultés sociales ou professionnelles d'insertion grâce à une aide financière que l'État accorde à l'employeur. Dans tous les contrats aidés, et il y en a un certain nombre de variétés, il y a un point commun qui est qu'ils contiennent une obligation pour l'employeur d'assurer, donc en contrepartie de l'aide financière qu'ils perçoivent de l'État pour l'emploi du salarié, une formation qui permettra aux salariés de trouver ensuite plus facilement un emploi dans des conditions de droit commun. Alors cette obligation de formation est évidemment essentiel, c'est un point central dans le dispositif et c'est pour ça que la Cour de cassation juge depuis 2004 que si l'employeur ne remplit pas son obligation de formation et par exemple dans les contrats d'accompagnement dans l'emploi dont il est question ici, ces formations incluent des actions d'orientation professionnelle, de validation des acquis. Eh bien, si l'obligation de formation n'est pas remplie par l'employeur, alors le contrat de travail n'est plus considéré comme un contrat aidé et il est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Oui, et c'est une sanction sévère pour l'employeur qui manque à son obligation à l'égard du salarié. Mais la question qui se pose est de savoir à partir de quand le salarié peut agir en justice pour faire requalifier donc son contrat, sachant qu'il dispose d'un délai de 2 ans.
Alors le délai de 2 ans, c'est le délai de droit commun qui est prévu par l'article L1471-1 du Code du travail lorsqu'il s'agit d'une action qui est en relation avec les questions d'exécution d'un contrat de travail. Mais évidemment, une fois qu'on a dit 2 ans, toute la question c'est de savoir à partir de quand ce délai va commencer à courir, ou plus exactement, parce que c'est ainsi que le prévoit la loi, à partir de quel moment on peut considérer que le salarié avait connaissance du manquement de son employeur et pouvait donc penser à saisir le juge.
Et dans notre arrêt, la Chambre sociale donne une réponse et une précision.
Absolument, la réponse, c'est que le délai de prescription de 2 ans pour agir court à compter du terme du contrat, car il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut vraiment mesurer le respect ou non par l'employeur de son obligation de formation tout au long du contrat. Et la précision, c'est que lorsqu'il y a plusieurs contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée qui se succèdent, le délai de prescription court à compter du terme de chacun des contrats concernés.
Alors les 2 autres décisions sont en lien avec les élections professionnelles. C'est un domaine qui donne lieu à une jurisprudence abondante depuis les ordonnances du 22 septembre 2017 qui ont modifié le visage de la représentation du personnel en créant le comité social et économique. La première décision, également du 15 décembre, concerne les conditions pour être électeur ou candidat aux élections du comité social et économique.
Pour être électeur et éligible aux élections en entreprise, il y a un certain nombre de conditions qui sont posées. Il faut évidemment être salarié de l'entreprise. Il faut y travailler depuis une certaine durée. Alors c'est 3 mois pour être électeur, c'est 1 an pour être éligible. Mais en plus de cela, l'article L2314-19 du Code du travail exclut de l'éligibilité, c'est-à-dire du droit à être candidat, les salariés qui sont apparenté à l'employeur en considérant qu'il y a une incompatibilité dans ce cas-là avec un mandat de représentation des salariés. La jurisprudence a tiré les conséquences de cette incompatibilité. D'abord, elle a dit qu'elle s'appliquait aussi aux électeurs. Et puis, elle a décidé qu'on ne pouvait pas être électeur ou candidat, non seulement quand on était apparenté à l'employeur, mais également quand on pouvait être assimilé à l'employeur, soit parce que le salarié est titulaire d'une délégation d'autorité de l'employeur, soit parce qu'il représente effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel.
Oui, alors ce que l'on constate, c'est que la Chambre sociale appliquait la même exclusion au niveau de l'électorat et au niveau de l'éligibilité.
C'est vrai. La jurisprudence ne faisait pas jusqu'à présent de différence selon que le salarié, donc on considérait comme assimilé à l'employeur, voulait juste être électeur ou voulait se présenter aux élections professionnelles. Il se trouve que la Cour de cassation a été saisie dans une affaire dans laquelle un syndicat demandait l'annulation d'un scrutin parce que 66 directeurs de magasins avaient voté dans le collège encadrement qui comprenait 215 salariés, alors que compte tenu de leur fonction, ils pouvaient être considérés comme entrant dans la catégorie des salariés assimilés à l'employeur au regard de la jurisprudence classique de la Cour de cassation. À l'occasion de ce litige, il a été demandé à la Cour de cassation de poser une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel en invoquant l'atteinte excessive au principe constitutionnel reconnu à tout travailleur de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail et de la gestion des entreprises. Et la Cour de cassation a estimé que la question était sérieuse. Elle l'a transmise par une décision du 15 septembre 2021 au Conseil constitutionnel.
Oui, parce qu'on pourrait considérer qu'en ce qu'elle faisait le même sort aux salariés électeurs et aux salariés candidats, la jurisprudence était trop extensive.
Et c'est exactement ce qu'a considéré le Conseil constitutionnel, qui en tout cas a estimé qu'en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d'électeur, c'est-à-dire par leur vote, à l'élection du comité social et économique au seul motif qu'ils disposent d'une délégation ou d'un pouvoir de représentation, l'interprétation donnée par la Cour de cassation des dispositions du Code du travail portait une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs.
Alors, quelles sont les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel qui sera effectivement applicable à partir du 31 octobre 2022 ?
Oui, c'est une date qui est mentionnée dans la décision du Conseil constitutionnel qui prévoit donc que les effets de sa décision ne seront applicables qu'à compter du 31 octobre 2022. Et donc, ça veut dire que c'est à partir de cette date et seulement à partir de cette date que la jurisprudence qui prévoit que les salariés qui disposent d'une délégation particulière d'autorité ou d'un pouvoir de représentation de l'employeur devant les institutions représentatives du personnel sont par principe exclus de l'électorat. Petite précision, bien entendu, ces salariés restent exclus de l'éligibilité, même après le 31 octobre 2022, puisque la décision du Conseil constitutionnel ne porte que sur l'électorat.
Alors, la dernière décision du 8 décembre dernier, toujours en matière d'élection, porte sur la preuve que doit rapporter un syndicat non représentatif de l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise pour pouvoir participer au processus électoral.
Depuis la loi du 20 août 2008, deux catégories de syndicats peuvent participer aux élections, c'est-à-dire présenter des candidats, mais aussi à la négociation du protocole préélectoral. D'une part, ça c'est tout à fait traditionnel, les syndicats qui sont représentatifs, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau national, mais aussi des syndicats qui ne sont pas représentatifs, mais qui remplissent un certain nombre de conditions, et parmi eux, notamment ceux qui ont constitué une section syndicale en entreprise. En fait, constituer une section syndicale en entreprise, ce qui ouvre droit à un certain nombre de prérogatives, notamment en matière de communication ou de représentation, c'est pouvoir justifier que le syndicat a au moins deux adhérents dans l'entreprise.
Oui, et la question qui se pose est donc de savoir à quel moment il faut démontrer l'existence de ces deux adhérents.
Alors, la jurisprudence constante de la Cour de cassation, c'est qu'il faut prouver que la section syndicale existe au moment où on veut exercer une prérogative qui nécessite d'avoir une section syndicale. Par conséquent, si on a un syndicat qui veut participer à un processus électoral, c'est au moment où il se présente à la négociation qu'il doit démontrer l'existence de la section syndicale, donc qu'il a au moins 2 adhérents. Et ce qu'apporte notre arrêt commenté aujourd'hui, c'est que la Cour de cassation précise que même si le syndicat avait annoncé plusieurs mois auparavant qu'il crée une section syndicale, sans que l'employeur n'élève à ce moment-là aucune contestation, il ne peut pas refuser de fournir la preuve de cette section syndicale au moment où il annonce sa participation à la négociation du protocole préélectoral, puisque c'est là qu'il va mettre en œuvre les prérogatives afférentes à la création de cette section syndicale.
Alors vous retrouverez les commentaires de ces 3 arrêts à la lettre de la Chambre sociale numéro 12 du 5 janvier 2022. Et nous poursuivons la sociale Le Mag avec notre décryptage.
Nous allons évoquer la rémunération variable, un sujet qui intéresse un très grand nombre de salariés, puisque dans les entreprises privées de plus de 10 salariés, on sait qu'environ 80% des salariés perçoivent en plus de leur salaire fixe des primes, des compléments de salaire, et que ça peut représenter jusqu'à 20% de leur rémunération. Alors l'arrêt dont nous allons parler date du 15 décembre dernier, et il est plus précisément relatif aux primes qui varient en fonction des objectifs qui sont fixés par l'employeur aux salariés.
Tout à fait. Et 2 précisions d'emblée pour bien définir notre sujet. Tout d'abord, nous parlons de primes d'objectifs, dites aux chiffres, aux quotas ou aux résultats, qui sont liées directement à l'activité réalisée par le salarié. Et donc peuvent être regardées comme une reconnaissance par l'employeur de l'effort accompli par ces derniers.
Parce qu'il y a aussi des primes qui ne sont pas directement liées à l'activité.
Bien sûr. Par exemple, une prime d'ancienneté qui a pour objet d'encourager la stabilité du personnel dans l'entreprise. Une prime d'assiduité qui permet de lutter contre l'absentéisme. Une prime de vacances. Des primes liées aux conditions de travail. Pour compenser les intempéries, la pénibilité. Des primes liées au changement de lieu de travail, comme les primes de déménagement, d'expatriation, de transfert d'établissement ou encore celles liées aux sujétions familiales. Les exemples sont abondants. Par ailleurs, nous parlons ici d'une prime qui constitue une partie variable du salaire et dont le versement est obligatoire.
Oui, parce qu'il y a aussi des primes dont le versement n'est pas obligatoire et qui ne constituent pas un élément de salaire.
Exactement. Ce sont des bonus dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui sont en général attribués à l'occasion d'un événement unique. La jurisprudence considère qu'elles entrent dans la catégorie des gratifications et libéralités et pas dans la catégorie des salaires. Et la qualification juridique a des conséquences importantes. Non seulement parce que nous l'avons dit, si les primes entrent dans la catégorie des salaires, leur versement est obligatoire, en sorte que le salarié peut exiger leur versement, mais aussi parce qu'elles sont prises en compte dans le calcul des indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail, et notamment de l'indemnité de licenciement.
Donc ici, nous parlons d'une partie variable du salaire qui est versée sous forme de commission, et donc qui constituent des primes qu'on appelle en général les primes d'objectif. On imagine bien qu'elles doivent remplir un certain nombre de conditions pour être licites. Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord distinguer selon la source de l'obligation ?
Oui, et nous en retiendrons ici 2 principales. Le contrat de travail et l'engagement unilatéral de l'employeur. Dans le cadre du contrat de travail, les éléments de rémunération sont discutés et arrêtés en commun par l'employeur et le salarié. Aussi, ces éléments ne peuvent être modifiés unilatéralement par l'employeur, même dans un sens plus favorable au salarié. Toute modification suppose un avenant et donc un accord des parties. Et si l'employeur et le salarié peuvent prévoir une prime d'objectif et prévoir une variation de cette prime en fonction de certains critères, il peut s'agir par exemple d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires. C'est à la condition toutefois que la clause de variation soit fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fasse pas porter le risque d'entreprise sur le salarié Et bien sûr qu'elle n'est pas pour effet de réduire la rémunération du salarié en dessous des minima fixés par la loi ou par les accords collectifs.
Oui, on comprend bien qu'une clause du contrat de travail qui prévoirait que le principe de la rémunération variable ou ses modalités de calcul peuvent être modifiées en fonction de la stratégie, des objectifs de l'entreprise, par exemple sa politique en matière de tarifs, ou encore que l'employeur peut modifier le barème de commission en fonction de circonstances qui seraient purement économiques. À ce moment-là, cette clause serait nécessairement illicite parce que sa mise en œuvre serait totalement dépendante des seuls choix de l'employeur.
Exactement. Mais s'il respecte ces conditions, l'employeur et le salarié fixent librement et d'un commun accord les objectifs à atteindre. Le contrat doit ainsi mentionner l'assiette de la prime, le mode de calcul de la prime et les objectifs, ou la manière dont ces objectifs seront identifiés. Sur ce dernier point, il peut renvoyer à une négociation annuelle, et dans ce cas-là, les parties sont amenées à signer chaque année un avenant au contrat de travail, mais il peut aussi prévoir qu'ils seront définis unilatéralement par l'employeur. Dans le cadre de l'engagement unilatéral de l'employeur, qui est notre deuxième source d'obligation, comme la dénomination l'indique, le principe d'une prime d'objectif et les modalités de calcul ne sont pas négociés. L'employeur s'engage seul. Il fixe seul le montant de la part variable du salaire ainsi que les objectifs à atteindre. Mais cet engagement l'oblige à l'égard du salarié dans la limite de son contenu.
Donc dans ce cadre-là, on considère que la fixation des objectifs relève du seul pouvoir de direction de l'employeur.
Oui, mais néanmoins, la Cour de cassation s'assure du respect des principes de transparence et de loyauté. Ainsi, elle exige que les objectifs soient, comme dans le cadre du contrat de travail, clairement déterminés, que l'employeur fixe précisément les conditions de variation de la rémunération et la période de référence, et que ces informations soient portées à la connaissance du salarié de manière explicite et en langue française. Si dans le cadre d'un engagement unilatéral, l'employeur peut modifier la teneur des objectifs chaque année, c'est à la condition toutefois de porter à la connaissance du salarié les nouveaux objectifs en début d'exercice.
Donc pour résumer, une prime d'objectif se caractérise par le fait d'être versée par l'employeur à tous les salariés ou alors à une partie d'entre eux, mais dans ce cas-là, il faut justifier qu'il y a des considérations objectives à cette différence de traitement. Il faut que la prime soit versée à intervalles réguliers en fonction d'un mode de calcul qui obéit à des critères précis et objectif. Et on a vu qu'elle pouvait résulter notamment du contrat de travail ou d'un engagement unilatéral de l'employeur et qu'elle est illicite sous les conditions qu'on vient d'évoquer. Maintenant, que se passe-t-il si les objectifs n'ont pas été déterminés ou portés à la connaissance du salarié pour l'année en cours ?
Il faut examiner la situation selon les sources d'obligation. Dans le cadre du contrat de travail, si le salarié et l'employeur ont renvoyé à une négociation annuelle la fixation des objectifs et ne se sont pas mis d'accord pour fixer ceux-ci, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et à défaut des données de la cause. Dans le cadre de l'engagement unilatéral de l'employeur, cette faculté de rechercher et de fixer la rémunération variable n'est pas ouverte au juge. En tout état de cause, quand c'est à l'employeur de fixer les objectifs et qu'il n'a pas satisfait à cette obligation, les objectifs qui n'ont pu être portés à la connaissance du salarié lui sont inopposables, ce qui veut dire que la prime correspondante est due, peu important les résultats du salarié.
Mais souvent, le litige ne va pas intervenir au moment où sont déterminés les objectifs, mais en fin d'exercice, lorsque se pose la question du montant et du paiement de la prime.
Oui, et rappelons que la Cour de cassation exige que le salarié ait les moyens de vérifier s'il a ou non atteint ses objectifs. Et pour cela, elle considère que l'employeur doit communiquer au salarié l'évaluation qu'il a faite de ses résultats et toutes les données d'information utiles à la vérification de cette évaluation, même s'il s'agit de données concernant l'entreprise tout entière, par exemple le montant des bénéfices, le montant des ventes totales.
Alors maintenant, si l'employeur a satisfait à son obligation de communication, qu'il ait démontré que le salarié, effectivement, n'a pas rempli ses objectifs tels qu'ils lui avaient été bien fixés et qui avaient été portés à sa connaissance, est-ce que malgré tout, le salarié peut se défendre en invoquant le fait qu'en réalité, il ne pouvait pas remplir ses objectifs pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment parce que les objectifs n'étaient tout simplement pas réalisables.
En effet, le caractère réaliste des objectifs fixés aux salariés est une condition sous-jacente à toutes les primes d'objectifs et une condition de leur validité. La jurisprudence considère que pour être réalisables, les objectifs doivent être déterminés, mais aussi raisonnables, et il appartient au juge de faire une appréciation in concreto du caractère raisonnable. C'est-à-dire en prenant en compte non seulement l'ensemble des éléments qui tiennent aux salariés et à l'entreprise, mais aussi en s'assurant que les objectifs sont compatibles avec le fonctionnement et l'état du marché. L'absence de caractère réalisable peut donc résulter soit de la teneur déraisonnable de l'objectif initialement fixé, soit de circonstances imprévues, indépendantes de la volonté du salarié et survenues au cours d'exercice, et n'ayant pas permis la réalisation des objectifs qui pourtant apparaissaient raisonnables lors de leur fixation. Et par exemple, l'employeur ne peut refuser le paiement de la prime lorsqu'il est établi que ses objectifs, de l'aveu même de celui-ci, étaient trop ambitieux et le marché atone.
Et comme souvent, la question qui va se poser va se concentrer sur la charge de la preuve. Qui doit démontrer le caractère réalisable des objectifs qui ont été fixés?
Et c'est sur ce point que porte l'arrêt du 15 décembre. Dans cette affaire, où le salarié soutenait que l'employeur lui avait fixé des objectifs irréalistes, et l'employeur, qu'il appartenait au salarié, de prouver qu'il n'était pas réalisable, la Chambre sociale a confirmé la décision de la Cour d'appel et considéré que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer le caractère raisonnable des objectifs. La question de la charge de la preuve du caractère réaliste des objectifs avait déjà donné lieu à un arrêt de la Chambre sociale du 24 octobre 2012, dans lequel la Cour de cassation considérait déjà que la preuve de la non-atteinte des objectifs par le salarié incombait à l'employeur.
Sauf que cet arrêt de 2012 n'avait pas été publié, donc on pouvait penser que c'était peut-être un arrêt d'espèce et que du coup on pouvait se demander jusqu'à quel point l'employeur était tenu, s'il y avait une contestation, de la charge de la preuve du caractère réalisable ou non des objectifs, puisque normalement en droit commun de la preuve, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en démontrer l'existence.
Oui, et dans cet arrêt du 15 décembre, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel la charge de la preuve du caractère réalisable des objectifs qui sont fixés aux salariés pèse sur l'employeur. Et elle décide de publier sa décision, donnant ainsi une plus grande solennité et une plus grande publicité à son arrêt. Et la solution se comprend aisément. L'employeur fixant les objectifs, c'est à lui de justifier qu'elles ne sont pas irréalistes et irréalisables par le salarié.
Et donc tout ça s'inscrit dans la cohérence du dispositif. En matière de prime d'objectif, c'est à l'employeur de prouver à la fois qu'il a fixé les objectifs, qu'il les a fait connaître aux salariés et que ces objectifs étaient réalisables et bien entendu de prouver qu'il a procédé au paiement des sommes qui étaient dues. Vous pourrez retrouver cet arrêt présenté dans la lettre de la Chambre sociale numéro 12. Et c'est la fin de notre podcast. L'ensemble des arrêts cités peuvent être retrouvés sur le site de la Cour de cassation, sous la rubrique « Kiosque » du site internet. Merci François.
À bientôt Laurence.